Mesdames, Messieurs les professeurs, chers collègues, chers amis du Collège de France, Mesdames, Messieurs, cher Christian Gaulier, c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir ce soir pour la leçon inaugurale de Christian Gaulier qui ouvre également la chaire annuelle Avenir commun durable. Cette chaire a été créée dans le cadre de l'initiative du même nom, lancée par des professeurs du Collège de France. Consacrée aux enjeux de la transition environnementale et énergétique, elle accueillera chaque année des experts internationaux pour mettre en lumière l'actualité de la recherche dans ce domaine. La chaire bénéficie du soutien de la Fondation du Collège de France et de ses deux grands mécènes, Covéa et Total Energy. La question de la transition écologique va d'un monde qui soit encore vivable dans quelques décennies et aujourd'hui une des préoccupations majeures de l'humanité. La dernière COP, la COP 26, a été interprétée par certains comme un échec. Les larmes aux yeux, le président britannique de la COP, Alok Sharma, s'est dit profondément désolé par des changements de dernière minute qui donnent à la déclaration finale la forme d'une seule déclaration d'intention. Boris Johnson, hôte de la COP 26, expliquait qu'il était, je cite, « minuit moins une sur l'horloge de l'apocalypse ». Il a commenté le résultat final par la phrase « ma joie est tentée de déception ». Face à ces balances mitigées, on peut se contenter d'exprimer ce sentiment, soit d'adopter un langage apocalyptique, que font certains, ou alors, c'est le but de l'initiative Avenir commun durable, de la chaire et de la chaire annuelle qui l'accompagne, entrer dans une réflexion scientifique sur ces questions. Sur le plan scientifique, une réflexion sur le changement climatique et la transition écologique doit aussi impliquer les sciences humaines et sociales. Sur le plan de l'histoire, on peut observer que nos sociétés ont connu des bouleversements climatiques importants dans le passé, comme des périodes de sécheresse au Proche-Orient ancien, au premier millénaire avant l'ère chrétienne, ou le petit âge glaciaire qui a affecté l'Europe au XVIIe siècle. Les sciences de l'Antiquité et les sciences des religions nous rendent attentifs au fait que l'humanité a eu très tôt conscience de la fragilité du monde dans lequel elle vivait. Le mythe du déluge, qu'on trouve dans le Proche-Orient ancien, dans la Bible, mais aussi en Inde et en Chine, et encore dans certaines civilisations de l'Amérique latine, le montre. Malgré leurs différences, ces récits insistent sur l'effondrement d'un premier monde pour des raisons diverses, soit surpopulation, soit méchanceté des hommes, soit des colères divines et bien d'autres. Sans doute aussi dans le but pour rendre attentif au fait que le monde dans lequel nous vivons peut être frappé par une catastrophe. Aujourd'hui, nos sociétés ont pris conscience que nous devons changer beaucoup de choses pour affronter et limiter le changement climatique qui désormais est inéluctable. Ces changements ont évidemment aussi une composante économique importante et font apparaître des inégalités évidentes, comme le révèle entre autres la discussion autour du prix du carbone. Dans une perspective de croissance, réduire le pouvoir d'achat d'aujourd'hui pour améliorer l'avenir peut poser problème. Et c'est justement à cause de l'importance de ce facteur économique que la chaire Avenir commun durable sera ce soir inaugurée par un économiste, Christian Gaulier. Les recherches de Christian Gaulier s'étend des domaines de l'économie de l'incertain à l'économie de l'environnement, en passant par la finance, la consommation, l'assurance et l'analyse des coûts-bénéfices, avec un intérêt particulier pour les effets durables à long terme. À l'origine de la Toulouse School of Economics, avec Jean Tirol, il en est le directeur. Il a publié plus d'une centaine d'articles dans des revues scientifiques internationales, ainsi que plusieurs livres, je ne cite quelques-uns seulement, The Economics of Risk and Time, qui a remporté le Paul A. Samuel Award en 2001. En 2012, il a publié chez Princeton University Press un livre intitulé Pricing the Planet's Future, et son récent ouvrage grand public, Le climat après la fin du mois 2019, traite l'importance d'agir face au changement climatique et a connu un grand succès en France. Christian Gaulier est un des auteurs du 4e et 5e rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur le changement climatique. Ce groupe a reçu en 2007 le prix Nobel de la paix pour leurs efforts visant à renforcer et diffuser les connaissances sur le changement climatique d'origine humaine et à jeter les bases des mesures nécessaires pour contrer de tels changements. Christian Gaulier conseille régulièrement plusieurs gouvernements sur la politique d'évaluation des investissements publics. Il est en outre président de l'Association européenne des économistes de l'environnement. Sa leçon inaugurale, qui ouvre son enseignement au Collège de France et qui se poursuit dès le 5 janvier, s'intitule « Entre fin du mois et fin du monde, économie de nos responsabilités envers l'humanité ». Cher Christian Gaulier, nous nous réjouissons de vous entendre et je vous cède la parole. Merci.
Merci, merci beaucoup, monsieur l'administrateur. Si vous me permettez, je vais lancer ma leçon par une introduction que je vais vous lire avant de passer à une présentation de transparent. Monsieur l'administrateur, chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs, alors que, selon l'expression consacrée, la plupart des habitants de la Terre continuent à affronter des incertitudes de fin de mois, des dangers considérables obligent à nous confronter à la plausibilité de la fin du monde. Après avoir créé au XXe siècle la bombe atomique et son hiver nucléaire, l'homme du XXIe siècle réalise qu'il pourrait finalement détruire son propre écosystème en le réchauffant à des niveaux jamais vus depuis des millions d'années, et ceci en quelques décennies seulement. Si le péril atomique a pu être évité en demandant à quelques hommes de ne pas appuyer sur le bouton, force est de constater que le péril climatique se matérialise sous nos propres yeux, sans que nous soyons capables de convaincre les milliards de terriens de moins appuyer sur leur bouton, celui du moteur thermique de leur voiture, celui du thermostat dans leurs habitations ou de la chaudière de leur centrale au charbon. Notre responsabilité envers les générations futures est engagée. Mais comme nous le rappelle Groucho Marx, pourquoi devrais-je me préoccuper des générations futures qu'ont-elles fait pour moi ? Ou pourquoi ne pas suivre la maxime attribuée à Madame de Pompadour, après nous, le déluge ? Et puis, de toute façon, en reprenant John Keynes, sur le long terme, nous sommes tous morts. Le changement climatique a ceci de commun avec la pandémie du Covid-19, qu'il illustre combien il est immensément difficile d'aligner les comportements individuels sur l'intérêt général. Les enjeux du climat, et plus globalement ceux liés à la soutenabilité de notre prospérité, nous obligent à rationaliser notre conception de nos responsabilités envers les humains qui vivront sur cette terre dans les siècles à venir, ainsi qu'à traduire concrètement cela en outils d'évaluation de nos actions et d'aide à la décision. Entre le court-termisme supposé des marchés financiers et le jusqu'au boutisme des tenants de la théorie de la décroissance et de la frugalité, en passant par les préoccupations sur le pouvoir d'achat des gilets jaunes, existe-t-il des fondements scientifiques à une théorie de l'individu et de l'entreprise environnementalement responsable dont on pourrait déduire une technique opérationnelle d'évaluation permettant de juger chaque action à l'aune de son apport au bien commun? À l'occasion de cette leçon inaugurale, je chercherai à vous convaincre que tel est le cas. Dans notre monde gagné par le relativisme intégral, où tous les arguments se valent, en particulier quand il s'agit de la réduction des émissions de CO2, et où tout ce qui est vert est a priori désirable, il est urgent de remettre de la rationalité dans un débat où les idéologies prennent le dessus au détriment de l'efficacité et de la crédibilité des politiques engagées. Ma leçon inaugurale sera divisée en deux parties. Dans la première partie, je voudrais extraire de l'économie du climat les leçons nécessaires pour décrire les méthodes et les instruments pour une politique climatique efficace. Et dans une deuxième partie, je m'intéresserai à préciser la valeur du carbone qu'il faudrait mettre en place à travers une taxe carbone ou des marchés de permis d'émission qui soient au niveau de la valeur carbone, qui soient compatibles avec nos responsabilités envers les générations futures. Donc, première partie, économie du climat et politique climatique. Dans un récent sondage publié par Ipsos et commandé par la chaire Avenir commun durable, il est indiqué que 80% des Français pensent qu'un changement climatique est en cours et qu'il est extrêmement grave. Donc les gens en France, et ce n'est pas vrai dans tous les pays dans le monde, en France en tout cas, il y a un vrai consensus sur l'existence d'une responsabilité envers les générations futures consécutive au fait d'émettre du CO2. Néanmoins, malgré cette prise de conscience, constatons que sur les 30 dernières années, si je prends la date pivot de 1992, l'année de la conférence de Rio, en 1992, nous émettions 22 gigatonnes de CO2 environ par an. Aujourd'hui, nous en émettons mondialement 36. Donc, concrètement, on sait qu'on fonce vers le mur et au lieu d'appuyer sur la pédale de frein, on appuie sur la pédale de l'accélérateur. Les économistes expliquent notre passivité en trois analyses. La première, historique, proposée par Arthur Pigou dans un livre publié en 1920, propose la problématique de l'externalité climatique. Et cette externalité signifie que quand vous faites un effort de réduction des émissions de CO2, vous allez, sans politique climatique spécifique, vous allez payer 100% des sacrifices ou des coûts liés à cet effort de décarbonation. Mais le bénéfice sera entièrement pour l'humanité et pratiquement pas pour vous. Donc, vous n'avez pas beaucoup d'incitation à faire des efforts puisque les bénéfices ne vous reviennent pas. Et évidemment, chacun va penser de la même façon, espérant être le passager clandestin des bénéfices, des efforts des autres. Et in fine, à l'équilibre, plus personne ne fait rien. La deuxième analyse que les économistes font, c'est la problématique de la tragédie des horizons temporels. Le problème est que quand vous faites un effort de réduction des émissions de CO2 aujourd'hui, l'essentiel des bénéfices de ces efforts vont être étalés sur des temps très longs, des années, des décennies, voire des siècles. Et l'homme étant naturellement court-termiste, favorisant plus les conséquences immédiates de leurs actions par rapport aux conséquences à long terme, les problématiques de fin de mois dominent par rapport aux problématiques de plus long terme. C'est vrai au niveau individuel, c'est vrai au niveau politique. Les politiques n'ont pas nécessairement les bonnes incitations pour tenir compte des bénéfices à très long terme des décisions politiques qu'ils vont prendre, puisque les générations futures ne votent pas aujourd'hui et ne sont pas représentées au Parlement qui sont élus par le peuple. Donc la démocratie, pour reprendre le jargon de certains philosophes et de politologues, la démocratie, c'est la dictature du présent. Et puis finalement, troisième analyse, celle de la fuite des carbones. Quand un pays décide de réduire ses émissions de CO2, pourrait très bien se faire en pénalisant, par exemple, les plus gros émetteurs. Ces gros émetteurs peuvent avoir un intérêt à délocaliser leur production pour aller reconstruire leur usine de l'autre côté de la frontière, là où les pénalités sur ces émissions n'existent pas. Et le résultat de cette décision politique du pays ambitieux au niveau climatique, c'est finalement, il n'y a pas d'impact positif sur le climat puisqu'il y a simplement un transfert géographique des émissions sur la Terre. Et le pays qui fait ses efforts sans bénéfice collectif va perdre des emplois, va perdre de la prospérité par cette désindustrialisation. Ces trois analyses convergent sur le même résultat. Conduisent à faire en sorte que, sans leadership clair, on ne va pas faire beaucoup d'efforts. Les résultats apparaissent dans ce deuxième bullet point. Aujourd'hui, nous émettons beaucoup plus de CO2 que dans le passé. C'est d'autant plus vrai que nous vivons aujourd'hui dans un monde où beaucoup de citoyens vivent dans l'utopie d'une transition énergétique heureuse. La transition énergétique, dans la réalité, va être coûteuse. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de remplacer des sources d'énergie qui finalement restent peu chères, extrêmement faciles à utiliser, les énergies fossiles, pour les remplacer par d'autres sources d'énergie qui restent encore aujourd'hui extrêmement coûteuses à produire et très difficiles à utiliser, en particulier dans les dimensions de l'intermittence des énergies solaires et éoliennes. Par exemple, en 2021, ça coûte le kilowattheure électrique produit par le mix européen coûte à peu près 6 centimes, alors que l'année dernière, la France a contracté avec un grand opérateur énergétique pour installer des éoliennes marines au large de Saint-Brieuc avec un tarif garanti sur 15 ans de 15,5 centimes le kilowattheure. Donc vous voyez que cette opération, qui consiste à remplacer du mix électrique européen par de l'électricité marine, de l'électricité éolienne marine, multiplie essentiellement par 3 le coût le coût de l'électricité produite. Ça illustre bien le fait qu'encore aujourd'hui, même si je ne tiens pas compte de la problématique d'intermittence de ces éoliennes en mer, j'ai un surcoût lié au transfert, à la décarbonation du système électrique. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de consensus sur la manière d'agir pour réduire les émissions. Il y a un consensus sur l'existence d'un problème, il n'y a pas du tout de consensus sur la manière de résoudre ce problème. Question concrète, qu'est-ce que chacun doit faire pour participer à la résolution de ce problème? Et permettez-moi de prendre un exemple très simple, celui qui est proposé par Jean Tirole, il s'est représenté dans une caricature de l'Express l'an dernier. Jean Tirole se rend tous les samedis matins au marché des Carmes à Toulouse pour acheter des tomates. Alors, les tomates sont les tomates françaises et les tomates espagnoles. Comme les tomates espagnoles en Espagne, ça pousse comme des mauvaises herbes, les tomates espagnoles sont moins chères, même si elles ont nécessité un transport qui est plus ou moins coûteux. Les tomates françaises, dans ce cas-ci, illustration, 2,30 euros le kilo, les tomates espagnoles, 1,75 euros. Mais Jean a une sensibilité pour le climat. Jean comprend que acheter des tomates espagnoles, c'est irresponsable du point de vue des émissions de CO2, parce que ces tomates espagnoles ont été transportées par camion, et ces camions ne sont pas encore électriques, ils sont avec des moteurs thermiques, et ces moteurs thermiques émettent du CO2. Et donc, il se pose la question de savoir, doit-il acheter des tomates françaises, parce que malgré qu'elles soient plus coûteuses à produire, elles au moins n'émettent pas de CO2. Une question intéressante. Je ne sais pas comment Jean a décidé de résoudre ce problème. J'y reviendrai tout à l'heure. Je vous présente ici différents autres exemples d'efforts de décarbonation de notre économie. Je vais me limiter ici, par manque de temps, à deux illustrations. Les deux illustrations qui se trouvent à gauche de ce tableau. Illustration 1. Aujourd'hui, en France, quand vous installez un panneau photovoltaïque sur votre toit, vous recevez un tarif garanti de l'électricité qu'elle va produire, un tarif de 18 centimes le kilowattheure. Un petit peu moins, mais permettez-moi de simplifier les calculs. 18 centimes le kilowattheure. Ça, c'est bien dans son sens du climat, parce que quand vous produisez du kilowattheure avec du solaire installé sur votre toit, vous n'émettez pas de CO2, essentiellement pas de CO2, alors que ce kilowattheure va se substituer à un kilowattheure issu du mix électrique européen qui, lui, émet 400 grammes de CO2 par kilowattheure. Et donc, vous voyez que cette opération de transfert du mix européen vers mon panneau solaire a un bénéfice écologique, mais un coût, puisque vous le produisez, ce kilowattheure, à un coût de 18 centimes, alors que les kilowattheures du mix électrique européen, c'est 6 centimes. Donc, vous avez un surcoût de 12 centimes pour économiser 400 grammes de CO2, mais quand vous faites la règle de 3, ça revient à 300 euros la tonne de CO2 évitée. Collectivement, dans ce programme de soutien au développement de l'électricité solaire, nous payons collectivement, à travers une taxe sur notre facture d'électricité, qui s'appelle la contribution au service public de l'énergie, nous payons une taxe qui représente grosso modo 8 milliards de collectes fiscales par an, qui permettent de, effectivement, compenser les intermédiaires du secteur pour qu'ils achètent cette électricité à 18 centimes. Premier exemple, enfin deuxième exemple, après celui des tomates de Jean. Troisième exemple, remplacer le charbon par le gaz naturel. Alors, vous allez me dire, le gaz naturel, ça émet du CO2, c'est pas bon. Sachez néanmoins que le gaz naturel émet deux fois moins de CO2 par kilowattheure produit par rapport au charbon. Et donc, remplacer le charbon par cette énergie de transition qui est le gaz naturel permet de réduire globalement l'émission de CO2. Et quand on sait que le charbon représente encore 45% du mix électrique allemand et 90% du mix électrique polonais, vous comprenez que faire cette opération de déplacement du charbon vers le gaz naturel peut avoir un impact extrêmement important sur les émissions européennes. Bien évidemment, le problème, c'est que le gaz naturel est un peu plus cher que le charbon. Et là, je veux me limiter à données de 2020. Je n'ai pas réussi à suivre les prix, l'évolution des prix récents à cause de la forte volatilité sur le marché européen du charbon et du gaz naturel. Mais sur les données 2020, le charbon coûte un peu moins cher que le gaz naturel. Donc là aussi, vous pouvez faire le même calcul. OK, on va accepter de payer plus cher en remplaçant le charbon par le gaz naturel. Ça va permettre de réduire les émissions de CO2. Quand vous faites le calcul, comme le différentiel de prix entre le charbon et le gaz naturel n'est pas si important, il suffit de 40 euros la tonne de CO2. Le coût par tonne de CO2 évité est autour de 40 euros. Donc, que faire ? On aurait pu compléter par d'autres exemples sur la voiture électrique, aussi chère à Jean Tirole, mais aussi baisser la vitesse au volant sur l'autoroute, sur les nationales. Tout ça sont des activités qui permettent de réduire les émissions de CO2, mais qui ont un coût dont l'estimation est représentée ici sur ce tableau. Donc, que faut-il faire ? Bien, ce qu'il faut faire quand on est confronté à ce type de problématique, c'est de comparer évidemment les coûts qui sont exprimés ici avec le bénéfice social de l'activité. L'activité de réduction des émissions de CO2 engendre un bénéfice qui va essentiellement, je l'ai expliqué tout à l'heure, bénéficier aux générations futures. Quelle est la valeur que nous accordons à cet effort de réduction des dommages qui seront supportés par les générations futures ? Bien, normalement, ça devrait être la valeur présente du flux de dommages climatiques évités engendrés par notre effort de réduction des émissions de CO2. Et donc, il s'agit de comparer le coût par tonne de CO2 évité décrit sur le transport en précédent avec la valeur carbone, cette expression de ce qu'on est prêt à payer pour réduire ces émissions de CO2, pour réduire ces dommages climatiques futurs. Donc, il s'agit ici, pour chaque problématique, la problématique de Jean Tirole, la problématique des producteurs d'électricité avec le charbon, le problème de l'installation de panneaux photovoltaïques sur votre toit, à chaque fois, regardez concrètement quels sont les coûts pour la société, quels sont les bénéfices pour la société en monétisant le bénéfice pour la société consécutif à la réduction des émissions de CO2 sous la forme de cette valeur carbone. Sur laquelle, dont le montant sera discuté dans la deuxième partie de cette présentation. Donc, cette capacité à faire de l'analyse comme bénéfice permet de rationaliser l'ensemble des décisions et de permettre une confrontation dans le débat entre ces différentes dimensions pour permettre de conduire une politique climatique qui soit au moindre coût pour les citoyens qui sont, bien entendu, in fine, les financeurs de cette transition. Donc, on peut appliquer ça à l'exemple des tomates toulousaines. Il suffit pour Jean de mesurer le nombre de kilos de CO2 qui ont été engendrés par le transport du kilo de tomate espagnole qu'il considère acheter, rajouter monétiser cette émission en utilisant cette valeur carbone, rajouter ça au coût de production des tomates espagnoles, les 1,75 € sur l'étal, et comparer la somme des deux au prix des tomates françaises. Autre exemple, l'éolienne, les éoliens terrestres. Vous savez aujourd'hui qu'il y a un vrai débat sur le développement de l'éolien terrestre en France parce que les éoliennes abîment le paysage. Eh bien, ce que je propose, c'est comparer les coûts des bénéfices de ces éoliennes. Parmi les coûts, il y a le coût capitalistique de l'investissement dans l'éolienne. Parmi les bénéfices, il y a la valeur carbone correspondant au fait que vous n'émettez pas de CO2 quand vous produisez de l'électricité avec votre éolienne, et puis le coût lié à l'impact sur le paysage, et ça, on peut l'estimer en regardant l'impact sur la valeur immobilière des habitations qui se trouvent autour de l'éolienne, des éoliennes, et constater que, étude anglaise récente, que quand vous avez une maison à 1 km d'une éolienne, sa valeur de marché est réduite de 5%. Je propose de rajouter dans le coût de l'éolien ce coût sociétal lié à l'impact sur le paysage ou peut-être sur le bruit et la pollution sonore. Je voudrais ici saluer les efforts en France qui sont très importants depuis un certain nombre de décennies, d'évaluateurs. Nous avons en France une culture de l'évaluation qui est intense, et vous avez ici dans cette salle un certain nombre de représentants de cette discipline, dont un des fondateurs, Marcel Boiteux, ancien président d'EDF, mais nous avons ici aussi Roger Gannery, Dominique Bureau, Alain Émile Quinet, Jean-Paul Ourliac, j'en passe. Ce que je propose aussi, c'est que les entreprises utilisent une valeur carbone. Ils appellent ça un prix interne du carbone pour déterminer si une entreprise qui voudrait être socialement responsable doit effectivement passer du charbon au gaz naturel, par exemple, si c'est une entreprise dans le secteur de la production d'électricité, eh bien, qu'elle fasse ce calcul avec une valeur carbone et qu'elle en prenne les conséquences à partir du calcul que je viens de décrire. Ça, c'est une politique de responsabilité sociale des entreprises, finances vertes, ce genre de choses. Mais le mieux pour résoudre le problème, pour inciter l'ensemble des agents économiques à faire les calculs que je viens de décrire, il ne faut pas attendre l'altruisme des gens, des uns et des autres pour qu'ils fassent ce calcul-là. Je vous rappelle la problématique de départ, externalité. Les gens sont pas les gens, les agents économiques, les entreprises, les consommateurs ne sont pas incités naturellement à intégrer dans leurs décisions d'émettre du CO2 les coûts sociétaux liés à ces émissions. Donc la solution que les économistes proposent depuis maintenant Arthur Pigou, 1920, c'est d'aligner la myriade des intérêts privés avec l'intérêt général en obligeant tous les émetteurs de CO2 à payer un prix qui est égal à cette valeur carbone, qui est égal à la valeur du dommage marginal engendré par ces émissions de CO2. Donc là, je bascule d'une problématique de valeur carbone, une problématique d'analyse coût-bénéfice au niveau de la société, à une problématique de mise en œuvre d'une politique au niveau décentralisé dans une économie de marché faite de liberté, hein, où on ne va pas interdire, on va simplement inciter, et on aligne les intérêts privés avec l'intérêt général en faisant payer à tous les émetteurs sans exemption, la valeur des dommages, le prix du carbone. Ça aura un impact, évidemment, sur le prix des biens et services les plus carbonés, puisque les producteurs qui produiront ces biens et services vont avoir des coûts de production plus importants, puisqu'ils devront payer ce prix lié à leurs émissions. Et ça, c'est normal qu'in fine, les consommateurs soient affectés par ce signal prix. Après tout, il faut quand même bien que les consommateurs internalisent eux aussi les conséquences de leur consommation. Les conséquences de leur consommation, c'est les émissions engendrées par la production de ces biens et services. Et sachez que, sur le long terme, le signal prix a des effets tout à fait cruciaux sur les comportements. On a en France en particulier peu la sensation que comment nos vies, nos modes de vie sont impactés par les prix relatifs. Je vous donne deux exemples. Quand Gutenberg invente l'imprimerie au début du XVe siècle, il va faire diviser les prix de production des livres d'un facteur 300. Et ça crée les conditions d'une alphabétisation qui conduit à la Renaissance, qui est en tout cas un facteur explicatif de la Renaissance et de la réforme religieuse. Autre exemple, la lumière, la bascule d'une lumière produite par de l'huile de baleine jusqu'à celle produite par du LED, réduit le coût de l'électricité, le coût de la lumière d'un facteur 1000, et ça transforme la planète en une planète sombre en une planète de lumière. Plus récemment, l'État britannique a augmenté massivement le prix du carbone dans le secteur de l'électricité, et en 10 ans, ça a éliminé le charbon du mix électrique américain. Finalement, prenez l'exemple du parc automobile entre l'Europe et les États-Unis. Aux États-Unis, le prix de l'essence est 2 fois moins élevé qu'en Europe depuis une quarantaine d'années. Et observez la qualité du parc automobile dans les deux régions du monde. Aux États-Unis, les voitures sont beaucoup plus lourdes, beaucoup plus émettrices de CO2, beaucoup plus gourmandes en essence. Donc, les prix, jouer sur les prix a un impact considérable sur les comportements et la politique de tarification carbone va dans cette direction-là. Alors, une tarification carbone n'est pas suffisante, bien entendu. Elle est nécessaire, elle n'est pas suffisante parce qu'il y a bien d'autres défaillances de marché. Et là, Philippe Aguillon ne me contredirait pas quand je dirais qu'il faut aussi subventionner la recherche et développement dans les investissements R&D verts, en particulier parce que les innovateurs verts ne sont pas nécessairement complètement incités à intégrer le bénéfice sociétal de leurs efforts, hein, puisque une grosse partie de leurs efforts d'innovation va aller à l'ensemble de la planète à travers l'augmentation du corpus de connaissances qui bénéficiera à tous. Alors, je ne peux pas étayer, l'argument est encore un peu plus sophistiqué pour la R&D verte Philippe Aguillon signalant que les gens qui innovent dans le secteur thermique n'ont pas nécessairement les bonnes incitations pour aller tenter de commencer à innover dans le secteur vert. Alors rapidement, avant de passer à la deuxième partie de ma présentation, les enjeux de la tarification carbone. Là, je vais faire un petit peu de politique, si vous me permettez, pendant quelques minutes. Il y a différents enjeux qui sont assez compliqués. Le premier, c'est que le prix du carbone, que ce soit à travers une taxe carbone ou un marché de permis d'émission, le prix du carbone révèle le vrai coût de la transition. Et dans un monde où les ménages pensent que la transition devrait être sans coût, il est difficile pour eux d'accepter qu'ils vont devoir payer l'essence à la pompe un peu plus cher ou d'acheter leur fuel domestique un peu plus cher. Ils réalisent à ce moment-là, et on a bien vu dans le mouvement des jaunes, ils réalisent à ce moment-là que la transition ne va pas être si heureuse qu'ils ne le pensaient. Donc c'est un discours difficile pour les politiques. C'est un peu suicidaire pour la politique de dire du sang, de la sueur et des larmes, qui est la réalité pour gagner cette guerre mondiale contre le changement climatique. Il faudra se relever les manches et travailler et accepter de sacrifier une partie de son pouvoir d'achat pour réaliser ces investissements de toutes sortes dans la transition énergétique. Un certain nombre d'économistes ont suggéré que peut-être, et là je vais prendre des gants, que peut-être que cette problématique d'acceptabilité politique de la tarification carbone devrait plutôt inciter à ne pas utiliser l'instrument de la tarification carbone, mais plutôt d'utiliser une multiple politique, micro-politique climatique, des subventions. Mais rappelez-vous qu'une subvention pour X, c'est une taxe sur Y, qui pose le même problème d'acceptabilité politique, mais c'est peut-être un peu plus sophistiqué, plus difficile à comprendre pour les citoyens. Des standards, des normes, des interdictions, tout ça, ça engendre un certain nombre de coûts qui sont sans doute un peu plus cachés, qui vont engendrer des coûts beaucoup plus importants dans la transition énergétique, mais comme ils sont cachés, ils seront peut-être plus faciles à mettre en œuvre. Deuxième élément, et on entend souvent parler de ça, la tarification du carbone est compliquée parce qu'elle est régressive. C'est vrai, en fait, la transition énergétique, elle est régressive par nature, comme la part du revenu des ménages consacrée à la demande d'énergie est décroissante avec le revenu. Les ménages les plus modestes consacrent une part plus importante de leur revenu pour se chauffer et pour se déplacer que les ménages les plus riches. Quand vous augmentez les coûts de l'énergie, et je vous ai dit que c'est inévitable, il faudra, en tout cas sans progrès technologique, on sera confronté à une augmentation des coûts de l'énergie, c'est par nature régressif. En plus, la politique, par exemple, d'installation de panneaux photovoltaïques sur le toit, ça bénéficie aux gens qui ont un toit, qui sont propriétaires de leur toit. Ce n'est pas les locataires de HLM. Donc, non seulement les coûts vont engendrer, la distribution des coûts sont régressives, la contribution du service public énergétique est payée par les riches comme par les pauvres dans leur facture d'électricité. Mais en plus, sur cette politique de subvention aux photovoltaïques, les bénéfices vont aux plus riches. Bonus-malus automobile, même chose. Qui bénéficie des 5 000 euros de bonus sur l'achat d'une voiture électrique, mais ceux qui sont capables de s'acheter une voiture électrique, et je suis désolé, étant donné les prix des voitures électriques encore aujourd'hui, ça bénéficie aux personnes les plus aisées. L'avantage d'une tarification du carbone, d'une taxe carbone ou d'un permis d'émission, un système de permis d'émission, c'est que précisément ça engendre un revenu fiscal qui peut lui être utilisé pour compenser, voire surcompenser les ménages les plus modestes. Donc la problématique de la régressivité est un argument en faveur, pas en défaveur, de la tarification du carbone. Il y a aussi des problématiques liées à la crédibilité de l'évolution des prix du carbone sur le temps long. Bien sûr que la plupart des actions qui permettront de décarboner notre économie dans les 30 prochaines années sont des actions d'investissement long. Remplacer une centrale au charbon par une centrale au gaz naturel, ça va être utile, ça va engendrer des bénéfices pour 30-40 années. Remplacer une centrale au charbon par une centrale nucléaire, vous connaissez les horizons temporels, nous sommes en train de en reparler en France dans les années à venir sur le grand carénage. Ce sont des temps longs et je vais prendre un exemple plus concret pour les gens de la rue. Remplacer une voiture thermique par une voiture électrique, moi je garde ma voiture pendant 20 ans, j'ai besoin de savoir quel sera le prix de l'essence incluant le prix du carbone pour les 20 prochaines années pour que je déclenche aujourd'hui ma décision d'acheter une voiture électrique. Et donc, on a un problème de crédibilité de la tarification du carbone, en particulier quand on utilise pour tarifer le carbone un système de marché d'émissions où la volatilité du prix reste absolument conséquente. Donc on a besoin de crédibiliser tout ça. On a deux solutions pour le faire. Une décision politique au niveau européen qui fixerait un prix plancher sur le marché du carbone en Europe avec un taux de croissance qui serait garanti à l'avance. Ou, proposition que je fais avec mon collègue Jacques Delplat, la proposition de créer une banque centrale du carbone. Je ne rentre pas dans les détails à ce stade-ci, ça m'amènerait un peu trop loin. Puis on pourrait parler aussi d'ajustement aux frontières. Je manque un petit peu de temps. Le président de la République en a parlé il y a quelques minutes. Maintenant, je suis parvenu à vous convaincre qu'il faut, d'une façon ou d'une autre, parler d'une valeur carbone et pourquoi pas d'un prix du carbone. Quel devrait être le niveau de cette valeur carbone ? C'est un problème de distribution de l'effort entre générations présentes et générations futures. Si vous fixez un prix du carbone faible, comme en Chine, hein, où le marché de permis donne un prix à autour de 5 euros la tonne de CO2, ou en Europe, où le prix est beaucoup plus élevé, vous voyez que plus le prix du carbone sera élevé, plus les uns et les autres aujourd'hui seront incités à faire des efforts importants, sacrifier leur consommation présente pour décarboner leur mode de vie ou leur mode de production. D'accord ? Donc la valeur carbone, en fait, traduit concrètement dans l'application du changement climatique nos responsabilités envers les générations futures. Quel doit être le niveau socialement désirable de cette valeur carbone ? C'est ce que je voudrais étudier avec vous dans les minutes à venir pour essayer de vous convaincre qu'on peut essayer de rationaliser cette problématique. C'est une problématique qui est profonde, qui est importante, qui transcende le problème du changement climatique, hein, la problématique de qu'est-ce qu'il faudrait faire, comment valoriser les actions qui ont des bénéfices à long terme. C'est un problème lié, par exemple, à la vitesse de résorption de la dette publique ou de la réforme du système de retraite. J'en passe, c'est des meilleurs. Petite anecdote pour commencer. Donc, je vous rappelle que pour aligner les intérêts, la myriade d'intérêts privés sur l'intérêt général, il faudrait fixer une valeur carbone qui soit égale aux dommages engendrés par ce carbone émis. D'accord ? Faire en sorte que les émetteurs soient pratiquement les victimes de leur propre comportement, puisque le prix serait égal aux dommages. D'accord ? C'est un principe de responsabilisation. Le problème, c'est que ces émissions, le dommage engendré par le CO2 émis aujourd'hui, il va s'étaler sur le temps long. Et donc, la question qui se pose, c'est comment valoriser un bénéfice qui se matérialisera dans 10, dans 20 ans, dans 100 ans, dans 200 ans. Donc, quel taux d'actualisation faut-il utiliser ? Le taux d'actualisation, c'est un terme technique pour décrire l'intensité de la pénalisation d'un bénéfice parce qu'il se réalise dans un temps long. Sous l'administration Obama, l'administration avait utilisé un taux d'actualisation dans les années 2014, hein, un taux d'actualisation de 3%, donc qui pénalise relativement peu le futur, qui valorise beaucoup ce qui va se passer à long terme par rapport à un taux d'actualisation plus élevé, ce qui a conduit l'administration Obama à utiliser une valeur qui aurait conduit, si il fallait fixer un prix par cette méthode aujourd'hui, aurait conduit à un prix autour de 75 euros la tonne de CO2 aujourd'hui. À ce prix-là, clairement, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en tout cas, si on appliquait ce prix-là en Europe, le charbon ne serait plus compétitif par rapport au gaz naturel, ce qui permettrait de réduire rapidement les émissions de CO2. Hélas, Trump arrivant à la Maison-Blanche, Trump annonce immédiatement que ce taux d'actualisation de 3% est totalement inacceptable. Il avait un argument, effectivement, aux États-Unis. Le taux d'actualisation officiel est de 7%. Et donc, l'administration Obama, aux ordres de Trump, décide de refaire les calculs avec un taux d'actualisation beaucoup plus élevé, celui de 7%, qui évidemment pénalise beaucoup plus le futur. Et donc, comme le plus gros des bénéfices des réductions des émissions de CO2 se matérialiseront dans 50 ans ou dans 100 ans, ça conduit à une valeur carbone qui est beaucoup plus faible. dans les calculs, 5 euros la tonne de CO2. Évidemment, avec 5 euros la tonne de CO2, il ne va pas se passer grand-chose pour réduire les émissions de CO2 à tous les niveaux de l'économie américaine. Et puis finalement, Biden arrivant au mois de janvier 2021, un des premiers décrets qu'il signe est un décret qui demande la réunion, nouvelle réunion du comité en charge de l'évaluation de la valeur carbone en proposant de rediscuter de quel taux d'actualisation il faut utiliser. Le jury délibère encore. Je suis en contact avec un certain nombre des membres de ce comité. Encore dimanche, j'avais des échanges avec William Nordhaus qui est à la manœuvre et qui me posait des questions qui vont être discutées dans les trois transparents qui vont venir. Donc, deux questions jointes. Quel taux d'actualisation utiliser pour valoriser les dommages évités à l'avenir? Et puis, question induite, quelle devrait être la valeur carbone? Je vais commencer par la problématique du taux d'actualisation, si vous me permettez. Et je vais faire un détour qui vous paraîtra abscon et absolument pas lié à la question. Je vais vous poser une question relative à qui va me permettre d'estimer votre degré d'aversion aux inégalités. Les inégalités, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, dans un contexte intergénérationnel. Je vais l'utiliser dans quelques minutes dans un contexte intertemporel. Imaginez une société composée de deux classes sociales. Une classe aisée, une classe modeste, et imaginez que la classe aisée ait des revenus deux fois plus élevés que la classe modeste. D'accord ? Cas d'école. Imaginez deux politiques exclusives. Vous devez choisir l'une ou l'autre. La politique A, c'est une politique qui va donner 1 euro à une personne aisée. Et la politique M est une politique qui va donner T euros, T plus petit que 1, à un ménage modeste. D'accord ? Imaginez T égale à 0,5, par exemple. Donc, vous devez choisir entre deux choses mutuellement exclusives, soit de donner 1 euro à un riche, soit de donner 50 centimes à un pauvre. Qu'est-ce que vous préférez ? Alors, il y a deux éléments à prendre en compte. Il y a deux dimensions au problème. Il y a deux objectifs. L'objectif de maximisation du PIB, maximisation de la création de valeur. Bien, il faudrait préférer, dans ce cas-là, évidemment, la politique A, parce que là, elle produit 1 euro de richesse supplémentaire. Le problème, c'est qu'elle est donnée à un ménage riche. Il faut aussi tenir compte, en conséquence, la deuxième dimension du problème, c'est la réduction des inégalités. En acceptant plutôt la politique M, vous produisez moins de richesses, mais vous réduisez les inégalités. Et donc, vous voyez que vous avez un compromis à faire entre PIB et inégalité. Et donc, selon que vous allez répondre A ou M, vous allez pouvoir en déduire une information sur vos préférences pour lutter contre les inégalités. D'accord ? Je vais poser une question un tout petit peu plus complexe, qui est celle d'imaginer que je peux faire variété. Le gain que je vais offrir dans la politique M au ménage modeste. Quelle est la valeur minimum de T qui vous fasse que M soit meilleur que A? En d'autres termes, quelle est la valeur de T qui vous rend indifférent entre la politique A et la politique M? Alors, on n'a pas le temps, j'aurais pu faire un petit sondage par Menti, mais je trouvais ça un peu risqué, je ne l'ai pas fait. Je suis allé voir la littérature, et je la regarde depuis un certain nombre de décennies maintenant, ce que les experts en économie, dans la littérature, ont dit là-dessus. Et je vais vous citer quelques noms. Alors, ça va faire peut-être un petit peu argument d'autorité, vous m'en excusez, mais des gens comme Kenneth Arrow, Marty Weitzman, mon co-auteur à Harvard, décédé l'an dernier, Nick Stern, que vous connaissez bien, qui est venu faire, je pense, occuper une chaire temporaire comme moi il y a quelques années, Bob Pindyke, mon collègue du MIT, Roger Guenry, le GIEC, dans son deuxième rapport en 1995, ont utilisé un degré d'aversion aux inégalités pour réfléchir aux questions climatiques qui était telle que le T critique, le gain critique, était de 25 centimes. Donc on était indifférent entre donner 1 euro. Tous ces gens sont d'accord pour dire que ça serait pas, on devrait être socialement indifférent entre donner 1 euro à un aisé et 25 centimes à un modeste, sachant que le modeste gagne deux fois moins que les aisés. D'accord ? Ou en d'autres termes, ça veut dire aussi, et je suis un petit peu provocateur quand, dans cette dernière phrase, hein, où je vais demander un transfert du pauvre vers le riche, vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi, hein, je vais dire, ce que me disent Arrow, Weizmann et compagnie, c'est qu'en fait, ils sont prêts à sacrifier jusqu'à 25 centimes d'un modeste pour donner un euro à un riche. Gardez ça en tête quelques minutes, je reviens dans une seconde, en fait. Cette problématique de quel devrait être notre degré d'aversion aux inégalités au niveau collectif, notre problématique de choix social face aux politiques redistributives, ont été étudiées par des philosophes, par des économistes depuis des décennies. On peut citer John Locke, on peut citer Jean-Jacques Rousseau, excusez-moi, John Rawls, John Arsani, qui proposent, pour y réfléchir à ces questions, une théorie de la justice distributive. Je ne sais pas si c'est fait ici galvaude le titre d'un livre de John Rawls, qui consiste à mettre les gens sous un voile d'ignorance. En fait, évidemment, si vous êtes un ménage modeste, vous avez préféré la politique M. Si vous êtes un ménage aidé, vous avez préféré la politique A. Donc, mettons les gens sous un voile d'ignorance et regardons sous ce voile d'ignorance qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire, quelle politique redistributive ils sont prêts à mettre en œuvre. Une politique redistributive sous le voile de l'ignorance est une politique qui va réduire le risque, puisque les inégalités, c'est une source de risque quand vous êtes sous le voile d'ignorance. C'est une politique redistributive. C'est une politique qui réduit le risque. Alors ça tombe bien parce que les économistes ont en savent un fameux paquet sur les comportements des agents économiques face au risque, les ménages, les citoyens. Et donc on peut utiliser ces informations pour, à travers ce voile d'ignorance, transformer cette problématique de choix social en une problématique de choix privé. Vous êtes face, sous le voile d'ignorance, vous êtes face à un problème de réduction des risques et vous regardez et on regarde qu'est-ce que vous êtes prêt à payer pour réduire ce risque. Et ça tombe bien que parmi les sponsors, il y ait une mutuelle d'assurance dans ce portefeuille. Et donc cette littérature économique sur le degré d'aversion au risque, que je traduis comme une aversion aux inégalités quand je retire le voile d'ignorance, est compatible avec le T de 0,25 que j'ai indiqué tout à l'heure. Je reviens maintenant sur ma problématique de taux d'actualisation. Donc, qu'est-ce que ce truc a à voir avec la façon dont je valorise un transfert de consommation des générations présentes vers les générations futures, étant entendu que faire un effort de réduction des émissions de CO2 est effectivement une demande de réduction de la consommation présente pour le bénéfice de l'augmentation de la consommation future. Mais je fais bien là aussi un transfert de consommation, exactement comme dans l'exemple de mes classes M et de mes classes modestes et aisées tout à l'heure, sauf qu'il est intemporel. Le point important que je voudrais mettre en avant ici, qui constitue le socle de la théorie de l'actualisation en sciences économiques depuis les années 1920, hein, Frank Ramsey, c'est de dire, en fait, dans un monde en croissance économique, je suis le ménage modeste, et les générations futures sont les ménages aisés. Et donc, quand je décide de faire des sacrifices aujourd'hui pour le bien de générations futures, je transfère de la richesse des pauvres vers les riches. J'augmente les inégalités, ici les inégalités intergénérationnelles, et ce n'est pas désirable d'un point de vue de l'intérêt général sous le voile d'ignorance. D'accord ? Donc, c'est la raison pour laquelle on va demander un taux de rendement minimum de ce transfert, de cet investissement, si je étudie un problème d'investissement, ou l'efficacité, le rendement de la politique de réduction des émissions de CO2. Et la question, c'est donc, quel est le rendement minimum de cet investissement sans risque que je vais exiger pour compenser le fait que ces investissements accroissent les inégalités intergénérationnelles. Ça, mes collègues, moi j'ai découvert ça dans les années 90, et en fait je pense que les économistes n'avaient pas vraiment compris cela il y a 25 ans. Je pense que maintenant c'est beaucoup plus dans la tête des uns et des autres. Comment quantifier le phénomène ? Eh bien, permettez-moi de faire l'hypothèse que, comme nous l'avons vu depuis deux siècles, la croissance de la consommation française va augmenter de 2% par an dans les décennies et les siècles à venir. Faisons cette hypothèse-là, si vous me permettez. C'est absurde, mais faisons-la pour quelques instants. Ça veut dire, à 2% par an, que dans 35 ans, la consommation aura doublé. Et donc, vous voyez bien que quand je vais me poser la question de savoir qu'est-ce que je suis prêt à payer aujourd'hui pour augmenter de 1 euro la consommation d'une personne qui vivra dans 35 ans. Je me mets précisément dans la question que je vous ai posée tout à l'heure. Qu'est-ce que vous êtes prêt à payer aujourd'hui pour donner 1 euro à une personne qui est 2 fois plus riche que vous ? Sauf qu'ici, je le mets dans une perspective intertemporelle. D'accord ? Eh bien, je vous ai donné la réponse, en tout cas celle des experts que j'ai interrogés dans la littérature, c'est 25 centimes. Eh bien, j'en conclus que 25 centimes, c'est la valeur présente d'un investissement qui me donnerait 1 euro dans 35 ans. C'est le maximum que je suis prêt à payer aujourd'hui pour donner 1 euro à une personne qui vivra dans 35 ans, parce que cette personne dans 35 ans sera 2 fois plus riche que moi. Et sous le voile de l'ignorance, si je ne sais pas aujourd'hui si je suis la personne qui va devoir payer aujourd'hui ou si c'est la personne qui bénéficiera d'euros dans 35 ans et qui sera 2 fois plus riche, eh bien, je vais dire, cet échange-là, je suis prêt à le faire que si le coût du transfert aujourd'hui est inférieur à 25 centimes. Eh bien, ça veut dire que je dois utiliser un taux d'actualisation de 4%. Pourquoi ? Parce que 4%, c'est le petit calcul que j'ai mis en rouge, en haut à droite. 4%, ça permet de conclure que 1 euro dans 35 ans actualisé au taux de 4% est bien égal à 25 centimes. D'accord ? Donc, en fait, tout ce que je vous raconte depuis 5 minutes, c'est une argumentation pour dire qu'il faudrait, dans ce monde-là, utiliser un taux de 4% pour pénaliser le futur, simplement parce que le futur est plus riche et plus prospère qu'aujourd'hui, et que nous sommes, et que demander d'investir, de sacrifier de la consommation et du pouvoir d'achat aujourd'hui, de la fin du mois, la problématique de la fin du mois, pour sauver pour le bénéfice de gens qui seront plus riches à l'avenir, eh bien, ça n'est socialement désirable que si le rendement de cette opération est suffisamment élevé. D'accord ? Donc, taux d'actualisation de 4%, le taux d'actualisation est le taux de rendement minimum d'un investissement sûr qui compense l'accroissement des inégalités que cet investissement, inégalités intergénérationnelles que cet investissement engendre. Ce qui est malheureux, d'accord, ça c'est le socle, c'est le principe de base. Et hélas, depuis 30 ans qu'on parle de valeur carbone parmi les économistes, c'est cet argument-là et celui-là seul qui détermine les positions des uns et des autres dans le débat sur le taux d'actualisation utilisé pour calculer la valeur carbone. C'est fort dommage. Pourquoi ? Parce que, alors, je suis désolé, Roger, je n'aurai pas le temps de parler de taux d'actualisation écologique, le temps presse. C'est fort dommage parce que, bien entendu, que fonder une théorie de la responsabilité envers les générations futures en imaginant, en posant comme principe de base que les gens qui vivront dans 2 siècles sont 50 fois plus riches que nous, évidemment qu'on n'a pas beaucoup de responsabilité par rapport à ces gens-là. Mais la réalité est, bien sûr, complètement différente. La réalité, c'est que nous faisons face à des incertitudes fondamentales sur la prospérité future de notre planète. Et c'est bien ça le problème. D'accord ? Donc c'est absurde. L'argument, il a du sens, mais il pose une hypothèse sur l'absence d'incertitude sur la croissance économique qui rend caduque le résultat. Donc la question qui se pose aujourd'hui, et c'est le cœur de toutes mes recherches des 20 dernières années, c'est comment intégrer cette incertitude et comment cette incertitude affecte le taux d'actualisation. Alors d'abord, dans quel sens ? Dans quel sens l'incertitude devrait faire baisser ou monter les 4% que j'ai indiqués tout à l'heure ? Mais regardons comment les agents économiques se comportent, comment les consommateurs se comportent, comment les citoyens, c'est eux qui nous concernent. Hein ? Eh bien, les citoyens, eux, quand ils s'affrontent eux-mêmes une incertitude sur l'évolution de leur propre revenu, ils sont prêts à sacrifier plus le présent. On l'observe parce qu'ils épargnent plus. On appelle ça l'épargne de précaution. C'est un concept développé par John Keynes dans les années 1920. Et on l'observe concrètement depuis un siècle. Beaucoup d'études économétriques ont été faites pour estimer la relation entre l'incertitude auquel les ménages sont confrontés et le niveau d'épargne qu'ils désirent accumuler. L'épargne, c'est bien un sacrifice que les consommateurs sont prêts à faire pour améliorer leur futur. Ce qui est désirable au niveau individuel doit être aussi désirable au niveau collectif. Et comment est-ce qu'on y arrive ? Eh bien, on doit faire baisser le taux d'actualisation pour faire en sorte que plus de projets d'investissement, comme des investissements de réduction d'émissions de CO2, passent le test de la comparaison des coûts et des bénéfices. Si vous augmentez la valeur carbone en augmentant le taux d'actualisation, eh bien, évidemment, vous allez faire plus d'investissements verts. Je me permets de signaler ici que cette idée d'épargne de précaution et de prudence a été pour la première fois construite, imaginée en théorie par mon directeur de thèse, Jacques Drez. Alors, première partie, donc, il faut faire baisser le taux d'intérêt en dessous de 4%. De combien en dessous de 4%? Alors là, c'est là où les choses commencent à devenir un peu plus compliquées. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Sachez que dans un monde d'hypothèses gaussiennes, avec une croissance décrite par un mouvement brownien géométrique, comme on le fait en théorie de la finance depuis 40 ans, les résultats ne sont pas très convaincants. La baisse du taux d'actualisation n'est pas sévère. Néanmoins, je ne pense pas que nous puissions représenter l'incertitude auxquelles les générations futures sont confrontées par un mouvement brownien. Posons-nous simplement la question, quelle traîne de croissance de ce brownien mettrez-vous en place pour caractériser une croissance sur les 5 prochains siècles? On a utilisé 2%. Bon, c'est pas clair. Hein. On peut mettre des tas d'histoires. Et puis, si vous regardez les films de science-fiction, vous voyez quand même des mondes qui sont extrêmement hétérogènes selon le producteur de films que vous considérez. On peut imaginer des phénomènes apocalyptiques. Monsieur l'administrateur en parlait dans son introduction. On peut penser, comme beaucoup d'économistes, la plausibilité d'une stagnation séculaire, d'une répétition de pandémies à haute fréquence, des crises financières à répétition, des guerres mondiales, une évolution détestable du savoir-vivre ensemble qui nous conduirait sur des sociétés post-démocratiques dont les possibilités de créer de la prospérité semblent hypothéquées. Au contraire, on peut imaginer qu'on soit reparti sur un schéma de croissance et de progrès technique, de conquête spatiale, de transhumanisme, de capacité à produire de l'énergie solaire, de l'énergie du soleil, la fusion nucléaire à des coûts relativement faibles qui recréerait des conditions d'une croissance importante, compatible avec l'écologie. Bref, on ne sait pas, et la solution de ce problème doit passer par une probabilisation des différents scénarios possibles. Je ne sais pas quel sera le bon scénario, mais je peux les probabiliser. En tout cas, je peux faire des hypothèses sur ces probabilités et en déduire un impact sur le taux d'actualisation. Ça, ce sont des travaux qui ont été menés par différentes commissions près de France Stratégie, à commencer par la commission Lebeg en 2005, la commission Gollier en 2011, la commission Kiné en 2013, la commission Roger Guenry et Jean-Paul Ourliac, qui vient de remettre ses conclusions, qui proposent qu'on utilise un taux d'actualisation de 1,2% plus l'inflation, pour évaluer, comme taux d'actualisation, pour évaluer des projets sans risque à horizon de moins de 70 ans. Néanmoins, la plupart des projets d'investissement qui améliorent l'avenir sont des projets qui ne transfèrent pas avec certitude de la consommation. Jusqu'à maintenant, je vous ai parlé d'un transfert de 25 centimes aujourd'hui à 1 euro certain dans 35 ans. La réalité, c'est que, en particulier pour les projets d'investissement qui ont des impacts à très long terme, ces impacts à très long terme sont très incertains pour la plupart d'entre eux. Et nous voudrions valoriser les projets qui ont, et je reviens à l'assurance, qui ont une valeur assurantielle, c'est-à-dire des projets d'investissement qui vont être particulièrement productifs dans les pires des états du monde, là où on atteint la fin du monde. Si on pouvait trouver des solutions aujourd'hui, des investissements qui garantissent que dans ces états du monde-là, au moins, je m'en fiche du reste, mais que dans ces états du monde-là, au moins, on engendre, ces investissements engendrent un supplément de consommation pour les populations qui vivraient dans cet état très détérioré. Donc, et par contre, on ne voudrait pas, on valoriserait moins des projets d'investissement qui auraient tendance à accroître le risque agrégé porté par les générations futures. Je peux vous donner un exemple. Je travaillais l'année dernière sur la contre-expertise du projet CIGEO, ce projet d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure, dans les Ardennes. Voilà un beau projet qui montre qui n'est pas très utile dans les bons états de la nature, mais qui est extrêmement utile dans les états de la nature. On retourne à l'âge de la pierre, on oublie que ces déchets à haute activité et longue vie sont extrêmement toxiques, et le fait de pouvoir protéger les générations futures de ces déchets a une valeur économique très importante dans cet état du monde-là. Vous voyez bien que ce sont des types de projets qui ont cette caractéristique d'offrir des bénéfices particulièrement importants dans les pires états du monde. Il faut survaloriser ça, et la meilleure façon de valoriser ça, c'est d'utiliser un taux d'actualisation sur les bénéfices espérés qui sont plus faibles pour ces projets assurantiels. Et ici, je me fais le porteur de la synthèse du rapport Guenry, dont j'ai cité le résultat pour les taux d'actualisation sans risque. Maintenant, pour les projets risqués, la commission Guenry a décidé cet été de recommander, par exemple, d'utiliser un taux d'actualisation de 3,2% pour les projets qui accroissent le risque macroéconomique, et typiquement pour un risque de, qui duplique le risque agrégé. Hein, typiquement, ce sont un projet qui, dont le bénéfice net pour la société augmente de 1% quand la consommation agrégée augmente de 1%. Donc, pour ces projets-là, qui accompagnent le risque macroéconomique et donc qui ne sont pas capables de le réduire, on va utiliser un taux d'actualisation de 3%. Au contraire, pour les projets qui, par exemple, engendrent un bénéfice net qui augmente de 1% quand la consommation baisse de 1%, hein, des projets qui sont en nature assurantielle, on va utiliser un taux d'actualisation de moins 0,8%. Et quand vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure sur Obama versus Trump, vous rappelez qu'évidemment, utiliser moins 0,8% plutôt que 3,2% pour calculer une valeur carbone, ça va avoir des effets tout à fait considérables. Et donc, la question résiduelle reste de savoir, dans le cas, quand je vais appliquer cette analyse de quelle est la valeur des projets, quelle est la valeur de bénéfices futurs en équivalent présent, je dois me poser la question fondamentale que finalement peu d'économistes ont posée. En fait, je suis concrètement, on est 3 ou 4 dans le monde à se poser cette question, dont William Nordhaus ce week-end dans son mail. Au fond, faire un effort de mitigation, un effort de réduction des émissions de CO2 aujourd'hui, est-ce que ça plutôt va engendrer des bénéfices sociaux importants dans les bons états de la nature ou dans les mauvais états de la nature ? Alors, l'argument de base pourrait être de dire, ben, si j'ai une incertitude sur la sensibilité climatique, hein, si la sensibilité climatique est importante, donc il y aura des effets importants, des dommages climatiques extrêmement importants liés aux émissions de CO2, à l'augmentation de la concentration de CO2, ça sera un état du monde où la consommation sera faible à cause de l'importance des dommages climatiques, et en même temps, réduire les émissions de CO2 aura un bénéfice dans cet état du monde extrêmement important. D'accord, puisque les dommages sont importants, et réduisez ces dommages-là par ces efforts d'investissement. Et donc, on est bien dans une situation où, effectivement, lutter contre les émissions de CO2, c'est un investissement qui sera particulièrement profitable dans les pires états du monde de la nature. Donc, il faudrait utiliser un taux d'actualisation de moins 0,8% et donc avoir un prix du carbone autour de 200 euros la tonne de CO2. Et là, quand vous réfléchissez comme ça, vous êtes victime d'un effet, comme je le montre d'un travail avec Simon Dietz et Louis Kessler, vous êtes victime d'un effet lampadaire. C'est-à-dire que quand on réfléchit au changement climatique, on dit, au fond, il n'y a qu'un seul risque, c'est le changement climatique. La réalité du monde, c'est qu'il y a bien d'autres incertitudes qui pèsent sur les générations futures que le risque climatique. Le risque numéro un, en fait, quand vous calibrez un modèle qui intègre des dimensions climatique et des dimensions de croissance économique avec des incertitudes sur l'évolution de la productivité des facteurs de production, mais sur le long terme, l'élément porte l'incertitude numéro un pour les générations futures, c'est est-ce qu'on aura encore du progrès technique et scientifique dans les siècles à venir ou pas. Et cette incertitude-là, elle domine massivement l'incertitude climatique. Je suis désolé pour les climatologues et les économistes du climat. Et ça fait que dans un monde où on aurait par exemple une stagnation multiséculaire, finalement on aurait peu de consommation faible dans des horizons longs et finalement peu de dommages climatiques, puisque avec une faible consommation dans le business as usual, on n'aura pas beaucoup d'émissions et donc on n'aura pas beaucoup de changements climatiques. Et donc dans ce contexte-là, vous voyez bien qu'il y a une corrélation positive entre niveau de consommation et bénéfice des dommages, et donc on inverse la corrélation, et donc il faut utiliser un taux d'actualisation positif. Ce que je tire de mes travaux actuellement, mais ça mérite une contre-expertise par des collègues qui voudraient me contredire, je conclue qu'il faudrait utiliser un taux d'actualisation autour de 3,2%, parce qu'investir dans le changement climatique, ce n'est pas un projet qui duplique le risque agrégé plutôt que de le réduire. Donc avec un taux d'actualisation de 3,2%, c'est ce que je vous ai voyez tout à l'heure sur le transparent Biden versus Trump, à 3,2%. La valeur présente des dommages futurs que vous évitez en n'émettant pas une tonne de CO2 aujourd'hui et tourne autour de 75 euros la tonne de CO2. Donc je propose que, à partir de cette conclusion, je propose d'utiliser un taux d'actualisation, un prix du carbone, une valeur carbone de 75 euros par tonne de CO2. Ça veut dire qu'on doit éliminer le charbon extrêmement rapidement, mais que par contre, pour les tomates de Jean, un kilo de tomates espagnoles à Toulouse devrait être, émettre au moins 7 kilos de CO2 au prix de 75 euros la tonne de CO2 pour qu'il soit désirable d'acheter des tomates françaises plutôt que des tomates espagnoles. Je voudrais néanmoins, et c'est mon dernier transparent, je voudrais néanmoins conclure sur une note un peu plus de mise en perspective par rapport à la situation politique. Le problème, c'est que, et on l'a bien vu avec le prix Nobel de William Dandos en 2018, avec ce type d'approche et un taux d'actualisation à 3% et un prix du carbone à 75 euros, on ne va pas réussir à rester en dessous de 2 degrés Celsius. À 75 euros la tonne de CO2, on va franchir les 3 degrés en 2100. Or, nous avons un accord de Paris qui fixe la barre à 2 degrés. Et donc, nécessairement, si j'oublie cet aspect comparaison des coûts et des bénéfices, si je me concentre sur un prix du carbone comme valeur fantôme, comme prix fantôme de la contrainte des 2 degrés Celsius, hein, 2 degrés Celsius, ça nous laisse 1100 gigatonnes de CO2 à émettre dans le siècle, selon le rapport du GIEC qui est sorti cet été. Donc, comment gérer cette l'allocation intertemporelle des gigatonnes de CO2 que je peux encore émettre dans le siècle de façon intelligente? Alors, vous avez deux solutions. Vous pouvez dire, ben, je ne veux pas augmenter trop le prix du carbone aujourd'hui, j'ai mes gilets jaunes, hein, je ne vais pas encore les matraquer. Je vais plutôt dire, je veux augmenter beaucoup le prix du carbone à l'avenir. Et la commission Kinet 2, qui a remis son rapport sur le schéma d'évolution du prix du carbone dans les 30 prochaines années, propose précisément cela, 75 euros la tonne de CO2 aujourd'hui et 775 euros en espérance en 2050. Avec un tel prix, on pourrait effectivement rester sur les 2 degrés Celsius. C'est un taux de croissance du prix du carbone de 8% par an. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup d'actifs sans risque qui ont un rendement de 8% par an, moi pas. Et en fait, cette proposition est une proposition qui manifestement alloue de façon imparfaite, inefficace, les efforts dans le temps. On demande trop peu d'efforts aujourd'hui et trop d'efforts en 2050. Selon mes travaux, il faudrait utiliser un taux d'actualisation plus faible, autour de 4%. Donc, si vous voulez réduire la pente de la croissance du prix du carbone de 8% à 4%, vous devez évidemment, pour rester sous la contrainte, vous devez augmenter le prix du carbone aujourd'hui. Et ce que je propose dans mes travaux récents, c'est d'utiliser un prix du carbone, non plus de 75 euros, qui nous mènerait à 3 degrés, mais pour rester sous 2 degrés, il faut un prix du carbone à 150 euros la tonne de CO2 aujourd'hui, croissant à 4% par an pour atteindre en espérance 500 euros la tonne de CO2 en 2050. Et dans cette configuration-là, ce n'est pas impossible que Jean Tirole doive acheter des tomates françaises. Je voudrais... Donc, conclusion. Monsieur l'administrateur, chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs, le temps de l'action est venu pour un avenir commun durable. Le changement climatique engendre une défaillance autant des marchés que des démocraties qui oblige les politiques responsables à réaligner la myriade des intérêts privés sur l'intérêt général en imposant un prix uniforme du carbone sans exemption et sans hausse de la pression fiscale. Notre ambition climatique collective doit se traduire en politique simple et transparente dans l'efficacité et la justice. Elles doivent permettre de lutter en même temps contre le changement climatique et contre les inégalités sociales. Seule une tarification du carbone remplit ces conditions avec une redistribution intégrale du dividendes carbone, en particulier sur les ménages les plus modestes. L'objectif de 2 degrés Celsius est démocratiquement légitime. Le passage de la parole aux actes oblige nos gouvernements, sinon nos entreprises, nos banques, nos assureurs et tous nos concitoyens, Jean Tirole compris, avec ses tomates, à considérer un prix du carbone de 150 euros la tonne de CO2 aujourd'hui, croissant à 4% par an, pour atteindre en espérance 500 euros en 2050. Il y va de nos responsabilités envers les générations futures. Et pour terminer, juste un dernier transparent, d'optimisme. Alors, je n'ai communiqué à personne cette information que je recommandais 150 euros la tonne de CO2, mais les marchés cette semaine ont décidé d'augmenter le prix du carbone qui prévaut sur le marché EU-ETS, marché des permis d'émission, qui a augmenté en 3 jours de 14,5%. Hier soir, le prix du carbone sur ce marché-là était de 88,88 €. Il était à peine au-dessus de 30 euros au début de l'année. Alors, je ne sais pas s'il y a un délit d'initié. Pourtant, j'ai donné l'information à personne. Voilà, je vous remercie beaucoup. Bonne soirée.